Stéphane Courtois, je vous voyais bondir, bouillir pendant
bouillir, mais en même temps, c'est absolument passionnant. C'est très intéressant d'avoir ce discours extrêmement clair. Hein, les objectifs n'ont pas changé. Il est très clair que ce monsieur n'a toujours pas compris que l'Union soviétique avait éclaté, que le droit des peuples, ça existe depuis 1918 comme principe fondamental, et que les Ukrainiens ont montré depuis déjà longtemps qu'ils souhaitaient être indépendants. Et il a bien posé le problème, il s'agit d'un changement de régime. Et on revient donc toujours à la même question, c'est le moment, et il se trouve que par le plus grand des hasards, j'étais à Kiev ce jour-là, à cette heure-là, et à côté du Parlement, le moment où M. Yanukovych, le précédent président qui balançait entre l'Europe, les Poutine, etc., a finalement décidé que non, on ne signerait pas d'accord avec l'Union européenne et on signerait avec la Russie qui allait mettre des milliards sur la table. Et je me souviens très bien que je sortais d'un colloque avec un collègue ukrainien et nous avons vu arriver sur une grande avenue qui venait du Parlement un monsieur très excité, qui s'agitait comme un fou. Et puis bon, la nuit était en train de tomber, mon collègue l'a reconnu en disant « Mais je le connais, c'est un député, qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars lui dit « Oui, c'est incroyable, Yanukovych, etc. Bon. » Et alors le soir, il y avait un... Donc voilà, on a discuté deux minutes et puis terminé. Le soir, il y avait à l'Opéra de Kiev la première d'un opéra sur le Holodomor, sur la grande famine organisée par Staline contre la paysannerie ukrainienne. C'était tout à fait curieux. C'est un compositeur canadien d'origine ukrainienne qui a fait cet opéra et qui était présenté pour la première fois avec toutes les autorités, etc. Bon, j'étais là. Quand nous sommes sortis, il y avait un petit groupe, allez, mettons 20 personnes, des jeunes, sans doute des étudiants, avec drapeau ukrainien, drapeau européen, qui criaient des slogans. Voilà, 20 personnes. Bon. Et puis, on est parti se coucher. Hein,
Et le lendemain, ils n'étaient plus 20.
Non. Le lendemain, il pleuvait sur Kiev, mais alors, comme vache qui pisse. C'était infernal. Et l'ami ukrainien avec qui j'étais et qui me raccompagne à l'aéroport me dit c'est pas possible, c'est toujours comme ça, on devrait être des milliers dans la rue, on peut rien faire, c'est, avec un temps comme ça, c'est pas possible. Surtout que c'était au mois de novembre, il commençait à faire un peu frais. Et en partant à l'aéroport, nous sommes passés sur la très grande avenue qui traverse tout Kiev et où il y avait ce gigantesque buste de Lénine, un monobloc de granit énorme qui fait je ne sais pas combien de
20 J'essaie tonnes. De voir où vous nous emmenez, Stéphane Courtois.
Voilà, vous allez voir. En passant, je lui ai dit, celui-là, il n'est pas prêt de tomber. Bon, trois semaines après, il était tombé.
Et voilà.
C'est l'histoire, c'est tout. Et c'était le début de Maïdan. Alors après, ça a duré des semaines. Ça a quand même fait nettement plus d'une centaine de morts et des centaines de blessés. Hein, parce que quand même, monsieur Tolstoï, il est gentil, mais enfin bon, les Russes, les services russes étaient là pour tirer dans le tas quand même. Bon. Donc voilà, les enjeux, ils sont là, c'est clair, et ce sont toujours les mêmes méthodes. Et pour terminer, quand j'entends M. Tolstoï, j'ai l'impression d'entendre M. Molotov convoquer le Premier ministre d'Estonie ou le Premier ministre de Lituanie en lui disant « Bon, mon ami, vous, c'est terminé, vous dégagez, on prend la place, au revoir. »
Si sauf êtes que là, content, ça se passe pas comme les Russes le veulent, effectivement. Guillaume Ancel, une chose, quand on entend Piotr Tolstoï ce soir, nous donner les objectifs de la Russie, on est 9 mois en arrière. On est 9 mois en arrière. Ils veulent toujours récupérer Kiev. Ils veulent toujours changer de régime. En tout cas, ce qui est affiché comme discours, à l'instant sur BFM TV, c'est ça.
C'était extrêmement intéressant de l'entendre. Et comme l'a souligné Stéphane, on a la voix de M. Poutine. Voilà. On a la version officielle en direct de la propagande. Moi, j'ai retenu deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord quand il évoque les poubelles de l'histoire. Il nous menace tous d'être dans les poubelles de l'histoire, comme si ils avaient très bien intégré le fait que leur histoire va se terminer avec cette guerre. Et donc je pense qu'il y a une conscience au sein du régime de Poutine que s'ils perdent cette guerre, leur histoire se termine avec elle. Et la deuxième chose, c'est quand il nous a dit, on voit très bien qu'il n'y croit pas deux secondes, c'est pour des années. Alors, en fait, on sait tous, en particulier les militaires, que les Russes sont au bout de leur potentiel militaire. Et quand il nous dit c'est pour des années, c'est pour introduire une musique totalement paradoxale. Il serait grand temps qu'on négocie et que les Occidentaux arrêtent de soutenir les Ukrainiens pour qu'enfin on puisse cesser cette guerre.
Moi, il a dit des choses tout à fait contradictoires. À la fois, d'un côté, comme vous le disiez, il a répété le discours, effectivement, officiel, mais en fait, qui n'est même plus le discours officiel. Officiellement, ça n'est plus cet objectif d'aller jusqu'à Kiev, etc. Donc, il a répété la haine anti-occidentale et voilà, cet objectif, cette guerre qui sera longue. Et en même temps, il a dit quelque chose d'intéressant. Mais en fait, plus oui. vite on passe aux négociations, plus vite la destruction des villes ukrainiennes s'arrêtera. Mmh. Après, il a essayé de revenir un peu là-dessus. Mmh. Mais en fait, il nous a donné l'objectif en fait, de ces missiles qui, d'un point de vue militaire, oui. ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, c'est tout ce qu'il leur reste, terroriser la population civile en espérant qu'à un moment donné, Kiev craque et accepte de négocier. Négocier sur base de quoi ? On verra ce qui est possible de faire. Mais j'ai trouvé que là, c'était intéressant. Oui. Il disait la réalité du vrai objectif réaliste, on va dire, qui leur reste.
En surfant sur la peur, parce qu'il a quand même cette phrase qui est saisissante au début de l'interview, quand il dit « je vais ramener l'Ukraine au XVIIIe siècle ouais, ». C'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment cette volonté du chaos, de la barbarie assumée, de la peur, qui joue à la fois sur les Ukrainiens, qu'il veut ramener au XVIIIe siècle, et sur les, il le dit, sur vous, les peuples européens qui souffraient, les classes moyennes qui souffraient. On voit bien quelle est cette
une douche par semaine. Voilà. Il nous menace d'une douche par semaine.
La barbarie, le chaud, la barbarie, la terreur à l'endroit des peuples, et aux dirigeants occidentaux, vous avez les moyens d'arrêter cette guerre. C'est très simple. Vous avez les moyens de l'arrêter. Rendez-vous. Il ne tient qu'à vous de l'arrêter d'une certaine façon.
Vous dites quoi, Stéphane Gantois ?
Rendez-vous. Mais non, mais c'est toujours la même chose. Si vous vous soumettez, très bien. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont s'occuper de vous, ils vont liquider ceux qui ne leur plaisent pas. Ils l'ont dit. Enfin, ils l'ont dit noir sur blanc à de nombreuses reprises.
Là, ça a été assez clair ce soir, en tout cas.
Alors, ce qui est amusant, c'est cette expression, hein, les poubelles de l'histoire. Mmh. Bon, les poubelles de l'histoire, c'est le mot que Trotsky a sorti le soir même où Lénine et Trotsky prenaient le pouvoir à Saint-Pétersbourg, hein, et où. Alors, c'est important parce que l'un des principaux socialistes russes de l'époque, Martov, a dit « Vous allez déclencher la guerre civile ». Et Trotsky n'a pas nié, mais il a dit « Mais vous finirez dans les poubelles de l'histoire ». Bon, c'est très bizarre de voir ces réminiscences bolcheviques qui reviennent maintenant. C'est tout à fait curieux.
Guillaume Ancel, et ensuite on s'intéressera aux craintes de coup d'État, Moscou, Guillaume Ancel.
Un élément de culture qui, à mon avis, le fait très proche de Poutine. Vous avez vu comme il réagit mal quand on lui pose la question « Mais au fond, est-ce que vous connaissez la guerre ?» Il lui dit « Bien sûr, je connais la guerre. Je n'ai jamais fait la guerre, mais je connais la guerre. » Il a exactement la même absence de culture militaire de Poutine, qui se présente toujours comme un grand guerrier, alors qu'en fait, c'est un officier renseignement du KGB. Il n'a aucune culture militaire. Ils envoient sans l'ombre d'un scrupule des dizaines de milliers de jeunes ukrainiens et russes à la mort. Mais en fait, on a l'impression qu'ils n'en ont même pas conscience que ça n'est pas un sujet. Alors que c'est un sujet qui les affaiblit aujourd'hui dans la société russe. Cette société qui se dit, mais attendez, pourquoi on fait massacrer nos jeunes pour ça ? Ça n'a pas de sens. On a l'impression qu'ils sont hors du temps et des réalités.
Pauline, on va s'intéresser ce soir à une enquête publiée par The Insider, qui est un média russe indépendant, qui s'est intéressé à la sécurité de Poutine, à ce qui se passe du côté du Kremlin. Et d'après The Insider, il y a clairement une crainte qui est en train de monter, c'est la crainte d'un coup d'État contre Poutine, et visiblement son entourage se prépare à s'opposer à ce coup.
Oui, et l'une des illustrations que cite The Insider, c'est cet exercice militaire qui a eu lieu en plein centre de Moscou pour se préparer à une attaque potentiellement terroriste ou même à un coup d'État. Donc tout le monde a été surpris à Moscou de voir ces hommes en armes qui se préparaient à cette attaque. Mais ce qui est intéressant, ce que dit The Insider, c'est qu'en fait, au-delà de l'attaque militaire d'un coup d'État qui serait orchestré militairement, ce que craint le FSO, donc chargé de protéger contre ces attaques extérieures, c'est plus une attaque massive, globale et une attaque psychologique qui viserait des officiers, des militaires d'une matière diffuse par les médias.
À retourner ces officiers.
Exactement, à retourner les officiers par les médias, hein, effectivement. Du coup, il y a tout un plan qui a été mis en place avec différents niveaux d'alerte pour se prémunir contre cette attaque psychologique. Il y a effectivement la propagande dans les médias, des jeux psychologiques dès le jardin d'enfants pour pouvoir déceler qui est l'ennemi. Alors, le plan reste assez vague. The Insider a obtenu une trame. Mais voilà, des jeux psychologiques pour que les enfants puissent voir qui est l'ennemi. La participation obligatoire pour les officiers, pour des militaires, à des réunions religieuses. On va les emmener visiter des cathédrales, notamment, pour leur redonner un peu le vrai sens de l'histoire. Des réunions de propagande politique également, où on leur donnera des cours d'histoire là aussi, des cours d'histoire du Kremlin notamment. Et puis, très important psychologiquement, on va renforcer, dit-on dans ce plan, la surveillance des officiers, leur poser des questions, voir ceux qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, les envoyer vers des hôpitaux. C'est ce qui est noté dans cette trame, dans ce plan. Et puis, donc, se préparer à ces attaques psychologiques. Et il y a tout un chapitre qui concerne l'hypnose. parce que visiblement on craint des attaques, que des gardes du Kremlin soient hypnotisés. Et non seulement qu'ils soient retournés, mais qu'ils soient hypnotisés. Et donc, il faut se prévenir contre ça. Il faut aussi des formations à l'hypnose. Et il y a donc un homme qui a été nommé à la tête, désigné pour mettre en place ce plan. C'est le général Alexander Komov, vice-directeur du FSO. Et il aurait recours autour de lui à des psychologues, mais aussi des astrologues qui le conseillent.
Donc,
il y a une crainte, donc, non seulement de cette attaque militaire, mais d'une attaque plus diffuse, globale, et où on tenterait de retourner peut-être des ennemis de l'intérieur qui retourneraient psychologiquement des officiers.
Ça s'appelle le début du totalitarisme. C'est la différence entre une dictature et le totalitarisme, c'est que vous prenez en compte tous les individus. Quoi. C'est, on ne se contente pas de les empêcher de parler, de penser, mais en plus, vous empêchez de penser et vous modelez complètement la vie de tous les individus. Donc ça, oui, ce sont des critères purs de totalitarisme. Mais
le Kremlin, Stéphane Courtin, est en train de devenir parano ou était déjà totalement parano ?
Non, mais de toute manière, à ce niveau de pouvoir très isolé, très absolu, ils sont tous parano. Non, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en réalité, moi j'ai un témoignage très précis d'une journaliste française, d'ailleurs, qui a vu ça de très près. Il y avait, après 1991, il y avait, parmi des gens de l'ex-KGB, une cellule avec un général qui s'occupait spécialement, déjà à l'époque, de tout ce type d'approche assez particulière, astrologie,
hypnose,
etc.
Pardon, qu'est-ce qu'il cherchait à faire par l'hypnose ?
Mais ce que dit le colonel Goya, le contrôle des consciences, le contrôle des consciences des citoyens, et de chercher toutes sortes de moyens, parce qu'ils avaient bien compris que le moyen totalitaire classique de l'Union soviétique, il avait justement capoté, il avait fait échec, il fallait trouver d'autres choses, on cherche, etc. Et on sait très bien qu'il y a eu de très grandes manipulations d'opinion en Russie post-soviétique dans les années 90 et au début des années 2000, ne serait-ce que la réélection de Eltsine en 96, l'élection de Poutine en 2000. Il y a eu des manipulations d'opinion très importantes, y compris avec des spécialistes américains, etc. Et puis, plus des milliards, évidemment, d'oligarques qui se déversent et dans les médias. Donc voilà, on revient toujours, c'est ça qui est quand même terrible, c'est de revenir effectivement à cette période totalitaire, qui est une période, effectivement, où il faut bien distinguer ce qui est un régime autoritaire, une dictature ordinaire, j'allais dire, et un régime totalitaire qui, lui, a l'intention de mettre le contrôle sur l'ensemble de la population, la pensée, etc. Et pour liquider ceux qui ne sont pas dans le droit chemin.
Ulysse, cette crainte d'un coup d'État, il est obligé de l'avoir, Poutine. Il est obligé de préparer la riposte.
Oui, mais elle ne date pas de la guerre en Ukraine.
Bien sûr.
Ne date pas des défaites de Kherson et d'ailleurs. En réalité, la garde nationale, la garde prétorienne de Poutine, il l'a créée en 2016. Et pourquoi en 2016? Parce qu'en fait, il a peur des révolutions oranges, des révolutions dans certains pays d'Europe et en Ukraine.
De Maïdan.
Il a peur de la place Maïdan et il se dit qu'il peut y avoir un soulèvement populaire en Russie. Et donc, il prend tous les moyens pour l'empêcher. Alors, il y a les moyens, je dirais, un peu particuliers d'hypnose, etc. Mais ça, c'est marginal.
Oui, c'est
marginal. Contre, il crée une garde nationale qui prend ce nom de guerre nationale, qui est considérable, puisqu'elle est entre 200 et 300 000 hommes, avec des unités parachutistes, etc. C'est pas uniquement des gardes du corps à l'ancienne, si j'ose dire, qui protègent le président. C'est vraiment une armée. Et pourquoi, en fait? Parce que Poutine a deux armées, en réalité. Il a l'armée régulière, celle qui fait la guerre en Ukraine. C'est l'armée classique, les généraux, les maréchaux, etc. C'est le ministre de la Défense. Mais on n'est jamais certain des militaires. Peut-être pourrait-il avoir envie de renverser le patron. Donc, on crée une deuxième armée. Et celle-là, elle est en secours au cas où la première pourrait décider de faire une révolution de palais. Donc, il a ses deux armées et la garde prétorienne, elle est très utile en ce moment. Alors, il en a envoyé une partie, d'ailleurs. Puisque
oui, sur le sol ukrainien.
Il y a même eu, on a raconté dans la presse russe, qu'il y avait une centaine de membres de la garde qui ont refusé d'aller combattre en Ukraine et qui ont été arrêtés. Mais sur une centaine sur 200 000 hommes ou 300 000 hommes, c'est pas beaucoup. Et dans cette garde prétorienne, il y a des gens qui sont chargés vraiment de la protection de Poutine en cas de révolution de palais. Donc, en fait, Poutine est victime de sa propre paranoïa, de sa peur d'un soulèvement, de sa peur d'un traître dans son entourage. Et donc, il se protège par tous les moyens. C'est pour ça que l'hypothèse d'un coup d'État ou d'un assassinat est très improbable, parce qu'il est ultra protégé, ultra méfiant, comme tous les gens autour de lui. N'oublions jamais quand même que ça a été le patron du KGB. Donc voilà, dans cet état d'esprit que la guerre commence. Et là, comme il connaît quelques revers, il doit se dire effectivement que peut-être certains pourraient avoir envie de s'en débarrasser pour peut-être changer le cours des choses. Mais ce n'est pas le moment, je dirais. On voit qu'aujourd'hui, comme on le rappelait tout à l'heure, Poutine a même pris la décision d'aller en Arménie, pas pour quelques heures.
Il est sorti de son pays.
Mais pour deux jours. Ouais. Et pour faire quoi ? Parce que sur les marges de l'Empire, ça commence aussi à contester. En Géorgie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. En Arménie, il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc Poutine, le tsar, va voir là-bas pour essayer de mettre un petit peu d'ordre et jouer les arbitres et rappeler...
On voit ces images-là, c'est son arrivée à Yerevan.
Rappeler aux Européens et aux Américains que le maître des lieux, c'est Poutine. Mmh. Et que c'est à lui d'essayer d'empêcher cette guerre qui, évidemment... catastrophique, parce que ça remet en cause évidemment l'influence de la Russie, notamment en Arménie.
Guillaume.
Il y a une autre raison à sa peur, c'est la symétrie des situations. Au tout début de la guerre, en fait, il a essayé de faire assassiner le président Zelensky. Et dans son esprit, ça allait durer trois jours, parce que Zelensky était décapité, et que par conséquent, il mettait en place un homme de paille, et son armée n'était pas du tout une armée d'invasion, mais une armée d'occupation. C'est ça qu'il avait prévu initialement. Non seulement il n'y est pas arrivé, mais en plus, il a compris à travers cet exemple que Zelensky était peut-être la clé de sa victoire et que désormais, lui, il est la clé de la guerre en Ukraine. Mmh. C'est-à-dire que tout repose sur lui. S'il disparaît demain, la guerre s'arrête. Je pense que c'est ça qui lui fait le plus peur, d'être la clé de ce conflit.
Mais je rebondis sur ce que vous dites et sur ce que disait Ulysse à l'instant, parce que ça rejoint aussi votre livre noir de Poutine, Stéphane Courtois, que vous avez co-dirigé avec Galia Kerman. Il y a deux choses. D'abord, la thèse de votre livre, c'est de dire que Poutine, comment dire, est resté un agent du KGB. Est toujours un agent du KGB, dans le sens où ses méthodes, sa tactique, il les a héritées du KGB. Et il y a autre chose que vous dites, c'est que on a là la fusion du régime de Poutine, avec un groupe mafieux autour de lui. Sauf que, pour en revenir à ce que disait Pauline Simonet, un groupe mafieux, ça se retourne contre son parrain. Ça se retourne, ça peut se retourner. Donc la parano est là. Donc on se prépare éventuellement à un mauvais coup.
Non mais il y a une chose qui moi me semble, en tant qu'historien et pour connaître la suite depuis 30 ans, très importante, c'est qu'on ne peut pas comprendre Poutine et ce qui se passe si on ne comprend pas, premièrement, que Poutine était un pur soviétique. Mmh. Bon, jusqu'à ses 40 ans, il a vécu en URSS, il a totalement adhéré au régime, à son idéologie, au Parti communiste, etc. Ça, c'est une chose. Mais en plus, il était un KGBiste, ce qui est autre chose. Les gens du parti, c'est pas forcément des tueurs. On leur a pas appris à tuer, on leur a pas appris à faire toutes les méthodes de police, on leur a pas appris les méthodes de chantage, etc. On leur a pas appris à faire des attentats. C'est pas parce qu'on est communiste qu'on est forcément KGBiste, même si Lénine avait dit « un bon communiste est toujours un bon tchéquiste ». Bon, mais si vous prenez deux personnages, hein, comme presque de même âge, pas tout à fait, mais Gorbatchev n'est pas du KGB. Il y a une chose qui, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense Ulysse Gosset, mais qui nous a un petit peu échappé à l'époque, c'est quand Andropov, après la mort de Brejnev, quand Andropov a été propulsé secrétaire général. Andropov était le patron du KGB. Bon. Et ça, c'était bien la première fois que le KGB, d'une certaine manière, prenait le pas sur le parti. Parce que jusque-là, le KGB avait toujours été aux ordres.
Sauf qu'avec Poutine, le KGB est allé encore plus loin. Et plus haut.
Alors, voilà, exactement. Hein. Or, alors, Poutine émerge en 94-96 à Saint-Pétersbourg et immédiatement, il monte, hein, dès après 96, il monte à Moscou et il monte dans l'administration présidentielle tout de suite. Et 98, le FSB. Donc déjà, clac, on remet la main sur un centre de pouvoir essentiel. Mais ces gens du KGB, les communistes, il n'y a qu'à lire Gorbatchev, bon, c'est un homme d'État, il réfléchit à son pays, etc. Ces gens du KGB... Ces gens-là du KGB, parce qu'il y en a beaucoup, mais ces gens-là du KGB, ils ne pensent pas à ça. Ils disent, on a perdu le pouvoir, il faut le reprendre à tout prix. Et Poutine est en mission. Hein. Poutine est en mission pour réinfiltrer l'appareil d'État. Moi, je me souviens très bien que quand Poutine est sorti, parce qu'on ne le connaissait pas, personne ne connaissait Poutine, évidemment. J'étais très ami avec Vladimir Bukovski, le grand dissident. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Poutine ? Il m'a répondu d'une phrase très simple. Il m'a dit, tu n'as pas l'air d'avoir compris qu'au-dessus des lieutenants-colonels, il y a des généraux. Bon, hein, c'est pas Michel Goya qui dirait ça. Bon. Et ça m'a frappé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me transmet là ? Il veut me dire que Poutine est en mission de gars qui lui ont dit, tu vas faire ça et ça et ça. Et
pour conserver le pouvoir, pour que le KGB...
Et pour reprendre le pouvoir. Il faut quand même voir qu'en 91-92, Eltsine avait d'une certaine manière liquidé le parti, et le KGB était dans une situation inconfortable.
Qu'est-ce que vous diriez de Poutine quand on dit, par exemple, s'il perd cette guerre? Alors, il convient de dire à quel moment il perd la guerre, mais quand le conseiller de Zelensky dit « aucun tsar qui perd une guerre ne reste au pouvoir », est-ce que vous évaluez la menace qui pèse sur lui en cas d'échec sur cette guerre en Ukraine?
Ah, mais en cas d'échec, il prendra une balle dans la tête et puis ce sera terminé.
Par qui?
Non, mais, ben, par qui? Je n'en sais rien, pas par moi. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux ni au Kremlin.
Non, mais par qui? Vous voyez que je veux dire?
Non, mais je veux dire, oui.
Tu ne reviendrais pas un échec en Ukraine?
Je ne vous demande pas un nom.
Je doute énormément que physiquement il survive à un échec parce qu'il y a trop de gens qui... s'il survit à un échec, il sera arrêté à un moment donné. Il passera éventuellement au procès quelque part, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Des révélations de partout. Il va commencer à dire, ah mais oui, mais lui, il a fait ci, lui, il a fait ça.
Bon, dénonciation, la pure.
Il faut liquider. Bon, il faut éliminer le témoin numéro un. Bon, et puis éventuellement lui faire porter le chapeau. Exactement ce que Khrouchtchev avait fait en 56 quand ils ont fait le rapport secret. On a dit, c'est Staline qui est responsable de tout, nous on n'a rien fait. C'est Khrouchtchev qui vous dit ça, il est couvert de sang des pieds à la tête. Bon, c'est tout. C'est ce qui est fascinant, si vous voulez, avec Tolstoï, là, c'est de voir la continuité de ce double langage complètement orwellien. L'agresseur et la victime, la victime et l'agresseur, la paix c'est la guerre. Enfin, ça recommence, c'est tout à fait étonnant de voir la continuité.
Et qu'il aime l'Ukraine.
Ah ben, voilà, il aime l'Ukraine, c'est d'ailleurs pour ça qu'il la bombarde.
C'est pour ça qu'il lui fait la guerre. Alors, effectivement.
Vous posez la question de la mafia, ça c'est encore autre chose, parce que au début, il y a eu cette osmose entre ce groupe de KGBistes de Saint-Pétersbourg et la mafia de Saint-Pétersbourg. Bon, et ils ont marché de concert et ils se sont réemparés du pouvoir. Je pense qu'ensuite, Poutine a fait le ménage. Il y a eu énormément de morts à ce moment-là. Hein, c'était Chicago partout. Bon, Poutine, je pense, a fait le ménage. En homme du KGB, en homme d'ordre, il a remis la main sur un certain nombre de gens. Et ceux qui ne voulaient pas marcher droit, ils ont certainement été liquidés. Ça,